Anatole France, la chemise. Chapitre 1er. Le roi Christophe, son gouvernement, ses murs, sa maladie. Christophe V n'était pas un mauvais roi. Il observait exactement les règles du gouvernement parlementaire et ne résistait jamais aux volontés des chambres. Cette soumission ne lui coûtait pas beaucoup, car il s'était aperçu que s'il y a plusieurs moyens d'arriver au pouvoir, il n'y en a pas deux de s'y maintenir, ni deux façons de s'y comporter, et que ses ministres, quelle que fût leur origine, leurs principes, leurs idées, leurs sentiments, gouvernaient tous d'une seule et même façon, et que, en dépit de certaines divergences de pure forme, ils se répétaient les uns les autres avec une exactitude rassurante. Aussi portait-il sans hésitation aux affaires tous ceux que les chambres lui désignaient, préférant toutefois les révolutionnaires comme plus ardents à imposer leur autorité. Pour sa part, il s'occupait surtout des affaires extérieures. Il faisait fréquemment des voyages diplomatiques, dînait et chassait avec les rois ses cousins, et se vantait d'être le meilleur ministre des affaires étrangères qu'on pût rêver. À l'intérieur, il se soutenait aussi bien que le permettait le malheur des temps. Il n'était ni très aimé, ni très estimé de son peuple, ce qui lui assurait l'avantage précieux de ne jamais donner de déception. Exempt de l'amour public, il n'était point menacé de l'impopularité assurée à quiconque est populaire. Son royaume était riche, l'industrie et le commerce y florissaient sans toutefois s'étendre de façon à inquiéter les nations voisines. Ses finances, surtout, commandaient l'admiration. La solidité de son crédit semblait inébranlable. Les financiers en parlaient avec enthousiasme, avec amour et les yeux mouillés de larmes généreuses. Quel honneur en rejaillissait sur le roi Christophe. Le paysan le rendait responsable des mauvaises récoltes, mais elles étaient rares. La fertilité du sol et la patience des laboureurs faisaient ce pays abondant en fruits, en blé, en vin, en troupeaux. Les ouvriers des usines, par leurs revendications continues et violentes, effrayaient les bourgeois qui comptaient sur le roi pour les protéger contre la révolution sociale, et les ouvriers de leur côté ne pouvaient point le renverser, car ils étaient les plus faibles et n'en avaient guère envie, ne voyant pas ce qu'ils gagneraient à sa chute. Il ne les soulageait point, ni ne les opprimait davantage, afin qu'ils fussent toujours une menace et jamais un danger. Ce prince pouvait compter sur l'armée. Elle avait un bon esprit. L'armée a toujours un bon esprit. Toutes les mesures sont prises pour qu'elle le garde. C'est la première nécessité de l'État. Car si elle le perdait, le gouvernement serait aussitôt renversé. Le roi Christophe protégeait la religion. À vrai dire, il n'était pas dévot, et pour ne point penser contrairement à la foi, il prenait l'utile précaution de n'en examiner jamais aucun article. Il entendait la messe dans sa chapelle et n'avait que des égards et des faveurs pour ses évêques, parmi lesquels se trouvaient trois ou quatre ultramontains qu'il abreuvait d'outrage. La bassesse et la servilité de sa magistrature lui inspiraient un insurmontable dégoût. Il ne concevait pas que ses sujets puissent supporter une si injuste justice, mais ses magistrats achetaient leur honteuse faiblesse envers les forts par une inflexible dureté de l'égard à l'égard des faibles. Leur sévérité rassurait les intérêts et commandait le respect. Christophe V avait remarqué que ses actes ou ne produisaient pas d'effets appréciables, ou produisait des effets contraires à ceux qui l'en attendaient. Aussi agissait-il peu. Ses ordres et ses décorations étaient son meilleur instrument de règne. Il les décernait à ses adversaires, qui en étaient avilis et satisfaits. La reine lui avait donné 3 fils. Elle était laide, acariâtre, avare et stupide. Mais le peuple, qui la savait délaissée et trompée par le roi, la poursuivait de louanges et d'hommages. Après avoir recherché une multitude de femmes de toutes les conditions, le roi se tenait le plus souvent auprès de Madame de la Poule, avec laquelle il avait des habitudes. En femme, il eut toujours aimé la nouveauté. Mais une femme nouvelle n'était pas une nouveauté pour lui, et la monotonie du changement lui pesait. De dépit, il retournait à Madame de la Poule, et ce déjà-vu qui lui était fastidieux chez celle qu'il voyait pour la première fois, bon, il le supportait moins mal chez une vieille amie. Cependant, elle l'ennuyait avec force et continuité. Parfois, excédé de ce qu'elle se montra toujours fadement la même, il essayait de la varier par des déguisements et la faisait habiller en tyrolienne, en andalouse, en capucin, en capitaine de dragon, en religieuse, sans cesser un moment de la trouver insipide. Sa grande occupation était la chasse, fonction héréditaire des rois et des princes qui leur vient des premiers hommes, antique nécessité devenue un divertissement, fatigue dont les grands font un plaisir. Il n'est plaisir que de fatigue. Christophe V chassait 6 fois par semaine. Un jour, en forêt, il dit à M. de Quatrefeuille, son premier cuicuyer, « Oh, quelle misère de court le cerf !»« Sire, lui répondit l'écuyer, vous serez bien aise de vous reposer après la chasse. » Quatrefeuille, soupira le roi, je ne suis plus d'abord à me fatiguer puis à me reposer. Maintenant, je ne trouve d'agrément ni à l'un ni à l'autre. Toute occupation a pour moi le vide de l'oisiveté, et le repos me laisse comme un pénible travail. Après 10 ans d'un règne sans révolution ni guerre, tenu enfin par ses sujets pour un habile politique, érigé en arbitre des rois, Christophe V ne goûtait nulle joie au monde. Plongé dans un abattement profond, il lui arrivait souvent de dire « Bon, j'ai constamment des vers noirs devant les yeux et sous les cartilages de mes côtes je sens un rocher où s'assied la tristesse. » Il perdait le sommeil et l'appétit. « Je ne puis plus manger, » disait-il à M. de Quatrefeuille, devant son couvert auguste de vermeil. « Hélas, ce n'est pas le plaisir de la table que je regrette. Je n'en ai jamais joui. Ce plaisir, un roi ne le connut jamais. J'ai la plus mauvaise table de mon royaume. Il n'y a que les gens du commun qui mangent bien. Les riches sont des cuisiniers qui les volent et les empoisonnent. Les plus grands cuisiniers sont ceux qui volent et empoisonnent le plus, et j'ai les plus grands cuisiniers d'Europe. Pourtant, j'étais gourmand de mon naturel et juste comme un autre aimais les bons morceaux, si mon état l'eût permis. » Il se plaignait de maux de rein, de pesanteur d'estomac, se sentait faible, avait la respiration courte et des battements de cœur. Par moments, les insipides bouffées d'une chaleur molle lui montaient au visage. « Je ressens, disait-il, un mal sourd, continu, tranquille, auquel on s'habitue et que traversent de temps à autre les éclairs d'une douleur fulgurante. De là ma stupeur et mon angoisse. » La tête lui tournait. Il avait des éblouissements, des migraines, des crampes, des spasmes et des élancements dans les flancs qui lui coupaient la respiration. Les 2 premiers médecins du roi, le docteur Saumon et le professeur Machellier, diagnostiquèrent la neurasthénie. « Unité morbide mal dégagée, » dit le professeur Saumon. « Entité nosologique insuffisamment définie, par la même insaisissable. » Le professeur Machelier l'interrompit. Dites, Saumon, véritable proté pathologique qui, comme le vieillard des mers, se transforme sans cesse sous l'étreinte du patricien et revêt les figures les plus bizarres et les plus terrifiantes, tour à tour vautour de l'ulcère stomacal ou serpent de la néphrite. Et soudain, elle dresse la face jaune de l'ictère, montre les pommettes rouges de la tuberculose ou crispe des mains étrangleuses qui ferait croire qu'elle a hypertrophié le cœur. Enfin, elle présente le spectre de tous les maux funestes au corps humain. Jusqu'à ce que, cédant à l'action médicale, et sa voix vaincue, elle s'enfuit sous sa véritable figure de sage des maladies. Le docteur Saumon était beau, gracieux, charmant, aimé des dames en qui il s'aimait. Savant, élégant, médecin mondain, il reconnaissait encore l'aristocratie dans un schaïkom et dans un péritoire et observait exactement les distances sociales qui séparent les utérus. Le professeur Machelier, petit, gros, court, en forme de peau, parleur abondant, était plus fat que son collègue Saumon. Il avait les mêmes prétentions et plus de peine à les soutenir. Ils se haïssaient, mais, s'étant aperçus qu'en se combattant l'un l'autre, ils se détruisaient tous deux, ils affectaient une entente parfaite et une communion plénière de pensée. L'un n'avait pas plutôt exprimé une idée que l'autre la faisait sienne. Bien qu'ayant de leur faculté et de leur intelligence une mésestime réciproque, ils ne craignaient pas de changer entre eux d'opinion, sachant qu'ils n'y risquaient rien et ne perdraient ni ne gagneraient au change, puisque c'était des opinions médicales. Au début, la maladie du roi ne leur causait pas d'inquiétude. Ils comptaient que le malade en guérirait pendant qu'il le soignerait et que cette coïncidence serait notée à leur avantage. Ils prescrivirent d'un commun accord une vie sévère. Un régime tonique, de l'exercice en plein air, l'emploi raisonné de l'hydrothérapie. Saumon, à l'approbation de Machelier, préconisa le sulfure de carbone et le chlorure de méthyle. Machelier, avec l'acquiescement de Saumon, indiqua les opiacés, le chloral et les bromures. Mais plusieurs mois s'écoulèrent sans que l'état du roi apparût s'amender, si peu que ce fût. Et bientôt, les souffrances devenant plus vives. « Il me semble, leur dit un jour Christophe V, étendu sur sa chaise longue, il me semble qu'une nichée de rats grignote les entrailles, pendant qu'un nain horrible, un kobold en capuchon, tunique et chausse rouge, « descendu dans mon estomac, l'entame à coups de pique et le creuse profondément. »« Sire, dit le professeur Machelier, c'est une douleur sympathique. »« Bon, moi je la trouve antipathique, répondit le roi. » Le docteur Saumon intervint. « Bon, ni l'estomac, sire, ni l'intestin de votre majesté n'est malade. » Et s'il vous cause une souffrance, disons-nous par sympathie avec votre plexus solaire, dont les innombrables filets nerveux, emmêlés, embrouillés, tiraillent dans tous les sens, l'intestin et l'estomac, comme autant de fils de platine incandescents. Là de rester dit Machelier, véritable proté pathologique. Mais le roi les congédia tous deux. Quand ils furent partis, Sire, dit M. de Saint-Sylvain, premier secrétaire des commandements, consultez le docteur Rodrigue. Oui, Sire, dit M. de Quatrefeuille, faites appeler le docteur Rodrigue. Il n'y a que cela à faire. À cette époque, le docteur Rodrigue étonnait l'univers. On le voyait presque en même temps dans tous les pays du globe. Il faisait payer ses visites d'un prix tel que les milliardaires reconnaissaient sa valeur. Ses confrères du monde entier, quoi qu'ils puissent penser de son savoir et de son caractère, parlaient avec respect d'un homme qui avait porté à une hauteur inouïe jusque-là les honoraires des médecins. Plusieurs préconisaient les méthodes, prétendant les posséder, les appliquer à prix réduit, et contribuaient ainsi à sa célébrité mondiale. Mais comme le docteur Rodrigue se plaisait à exclure de sa thérapeutique les produits de laboratoire et les préparations des officines pharmaceutiques, comme il n'observait jamais les formules du codex, ces moyens curatifs présentaient une bizarrerie déconcertante et des singularités inimitables. Monsieur de Saint-Sylvain, sans avoir pratiqué Rodrigue, avait en lui une foi absolue et y croyait comme en Dieu. Il supplia le roi de faire appeler le docteur qui opérait les miracles. Non, ce fut en vain. « Je m'en tiens, dit Christophe V à Saubon et Machelier. Je les connais, je sais qu'ils ne sont capables de rien, tandis que je ne sais pas ce dont est capable ce Rodrigue. » Chapitre 2. Le remède du docteur Rodrigue. Le roi n'avait jamais beaucoup aimé ces deux médecins ordinaires. Après 6 mois de maladie, ils lui devinrent tout à fait insupportables. Du plus loin qu'il voyait les belles moustaches qui couronnaient le sourire éternel et victorieux du docteur Saumon et les deux cornes de cheveux noirs collées sur le crâne de Machelier, il grinçait les dents et détournait franchement le regard. Une nuit, il jeta par la fenêtre leurs potions, leurs globules et leurs poudres qui remplissaient la chambre d'une odeur fade et triste. Non seulement il ne fit plus rien de ce qu'il lui ordonnait, mais il prit grand soin d'observer au rebours leurs prescriptions. Il demeurait étendu quand il lui recommandait l'exercice, s'agitait quand il lui ordonnait le repos, mangeait quand il le mettait à la diète, jeûnait quand il préconisait la suralimentation et montrait à Madame de la Poule une ardeur si inusitée qu'elle n'en pouvait croire le témoignage de ses sens et pensées rêvées. Pourtant, il ne guérissait point, tant il est vrai que la médecine est un art décevant et que ses préceptes, en quelque sens qu'on les prenne, sont également vains. Il n'en allait pas plus mal, mais il n'en allait pas mieux. Ses douleurs abondantes et variées ne le quittaient pas. Il se plaignait de ce qu'une fourmilière s'était établie dans son cerveau et que cette colonie industrieuse et guerrière y creusait des galeries, des chambres, des magasins, y transportait des vivres, des matériaux, y déposait des œufs par milliards, y nourrissait les jeunes, y soutenait des sièges, donnait, repoussait les assauts, enfin, s'y livrait des combats acharnés. Il sentait, disait-il, quand une guerrière tranchait de ses mandibules acérées le dur et mince corselet de l'ennemi. Sire, lui dit M. de Saint-Sylvain, mais faites venir le docteur Rodrigue, il vous guérira sûrement. Mais le roi haussa les épaules et, dans un moment de faiblesse et d'absence, il redemanda des potions et se remit au régime. Il ne retourna plus chez Madame de la Poule et prit avec zèle des pilules de nitrate d'aconitine qui étaient alors dans leur claire nouveauté et leur radieuse jeunesse. À la suite de cette abstinence et de ces soins, il fut saisi d'un tel accès de suffocation que la langue lui sortait de la bouche et les yeux de la tête. On mettait son lit debout comme une horloge et son visage congestionné y faisait un cadran rouge. « Oh, c'est le plexus cardiaque qui est en pleine révolte !» dit le professeur Machelier. « Oui, en grande effervescence !» ajouta le docteur Saumon. Monsieur de Saint-Sylvain trouva l'occasion bonne pour recommander une fois encore le docteur Rodrigue. Mais le roi déclara qu'il n'avait pas besoin d'un médecin de plus. « Sire, répliqua Saint-Sylvain, le docteur Rodrigue n'est pas un médecin. » « Oh !» s'écria Christophe V. « Mais ce que vous dites, monsieur de Saint-Sylvain, est tout à son avantage et me provient en sa faveur. Il n'est pas médecin, alors qu'est-il ? » ?»« Un savant, un homme de génie, sire, qui a découvert les propriétés inouïes de la matière à l'état radiant et qui les applique à la médecine. » Mais, d'un ton qui ne souffrait pas de réplique, le roi invita le secrétaire de ses commandements à ne plus lui parler de ce charlatan. « Jamais, fit-il, jamais, je ne le recevrai, jamais !» Christophe V passa l'été d'une façon supportable. Il fit une croisière à bord d'un yacht à 200 tonneaux, avec Madame de la Poule habillée en mousse. Il y reçut à déjeuner un président de la République, un roi et un empereur, et y assura de concert avec eux la paix du monde. Il lui était fastidieux de fixer les destins des peuples, mais ayant trouvé dans la cabine de Madame de la Poule un vieux roman pour les petites ouvrières, il le lut avec un intérêt passionné qui, durant quelques heures, lui procura l'oubli délicieux des choses réelles. Enfin, hors quelques migraines, des névralgies, des rhumatismes et l'ennui de vivre, il se porta passablement. L'automne le rendit à ses anciennes tortures. Il endurait l'horrible supplice d'un homme pris dans la glace, depuis les pieds jusqu'à la ceinture et le buste enveloppé de flammes. Pourtant, ce qu'il subissait avec plus d'horreur encore et d'épouvante, c'étaient les sensations qu'il ne pouvait exprimer, des états indicibles. Il y en avait, disait-il, qui lui faisaient dresser les cheveux sur la tête. Il était dévoré d'anémie et sa faiblesse croissait chaque jour, sans diminuer sa capacité de souffrir. « Monsieur de Saint-Sylvain, dit-il un matin après une mauvaise nuit, vous m'avez plusieurs fois parlé du docteur Rodrigue, bien faites-le venir. » Le docteur Rodrigue était à ce moment-là signalé au Cap, à Melbourne, à Saint-Pétersbourg. Des câblogrammes et des radiogrammes furent aussitôt envoyés dans ces directions. Une semaine ne s'était pas écoulée que le roi réclamait le docteur Rodrigue avec instance. Les jours qui suivirent, il demandait à toute minute, « Mais ne viendra-t-il pas bientôt ?» On lui représenta que Sa Majesté n'était pas un client à dédaigner et que Rodrigue voyageait avec une rapidité prodigieuse, mais rien ne pouvait calmer l'impatience du malade. « Il ne viendra pas, soupirait-il. Vous verrez qu'il ne viendra pas. » Une dépêche arriva de Gênes annonçant que Rodrigue prenait passage à bord du Preussen. Trois jours après, le docteur mondial, après avoir fait à ses collègues Saumon et Machelier une visite de déférence insolente, se présenta au palais. Il était plus jeune et plus beau que le docteur Saumon, avec un air plus fier et plus noble. Par respect pour la nature à laquelle il obéissait dans toutes choses, il laissait croître ses cheveux et sa barbe, et ressemblait à ces philosophes antiques que la Grèce a figurés dans le marbre. Ayant examiné le roi, « Sire, dit-il, les médecins qui parlent des maladies comme les aveugles des couleurs disent que vous avez une neurasthénie ou faiblesse des nerfs. Mais quand ils auront reconnu votre mal, ils n'en seront pas plus propres à le guérir, car un tissu organique ne se peut reconstituer que par les moyens que la nature a employés pour le constituer, et ces moyens, ils les ignorent. Or, quels sont les moyens ? Quels sont les procédés de la nature? Elle ne connaît ni la main ni l'outil, elle est subtile, elle est spirituelle. Elle emploie à ses puissances, à ses plus massives constructions, les particules infiniment ténues de la matière, l'atome, le protil. D'un impalpable brouillard, elle fait des rochers, des métaux, des plantes, des animaux, des hommes. Comment? Par attraction, gravitation, transpiration, pénétration, inhibition, endosmose, capillarité, affinité, sympathie. Elle ne forme pas un grain de sable autrement qu'elle n'a formé la voie lactée. L'harmonie des sphères règne dans l'un comme dans l'autre. Ils ne subissent tous deux que par le mouvement des parcelles qui les composent et qui est leur âme musicale, amoureuse et toujours agitée. Entre les étoiles du ciel et les poussières qui dansent dans le rayon de soleil qui traverse cette chambre, il n'y a aucune différence de structure. Et la moindre de ces poussières est aussi admirable que Sirius, car la merveille est dans tous les corps de l'univers et l'infiniment petit qui les forme et les anime. Voilà comment travaille la nature. De l'imperceptible, de l'impalpable, de l'impondérable, elle a tiré le vaste monde, accessible à nos sens, et que notre esprit pèse et mesure, et ce dont elle nous a fait nous-mêmes est moins qu'un souffle. Opérons comme elle, au moyen de l'impondérable, de l'impalpable, de l'imperceptible, par attraction amoureuse et pénétration subtile. Voilà le principe. Alors comment l'appliquer au cas qui nous occupe? Comment redonner la vie aux nerfs épuisés? C'est ce qui nous reste à examiner. Mais d'abord, qu'est-ce que les nerfs? Si nous en demandons la définition, le moindre physiologiste, que dis-je, un machelier, un saumon, vous l'adorera. Qu'est-ce que les nerfs? Des cordons, des fibres qui partent du cerveau et de la moelle épinière et vont se distribuer dans toutes les parties du corps pour transmettre les excitations sensorielles et faire agir les organes moteurs. Ils sont donc sensations et mouvements. Cela suffit pour nous en faire connaître la constitution intime, pour nous en révéler l'essence. De quelque nom qu'on la nomme, elle est identique à ce que, dans l'ordre des sensations, nous appelons joie, et dans l'ordre moral, bonheur. Où se trouvera un atome de joie et de bonheur? Se trouvera la substance réparatrice des nerfs. Et quand je dis un atome de joie, je désigne un objet matériel, une substance définie, un corps susceptible de passer par les quatre états solides, liquides, gazeux et radiants, un corps dont on peut déterminer le poids atomique. La joie et la tristesse dont les hommes, les animaux et les plantes éprouvent les effets depuis l'origine des choses sont des substances réelles, elles sont matières. Puisqu'elles sont esprit et que sous ces trois aspects, mouvement, matière, intelligence, la nature est une. Il ne s'agit donc plus que de se procurer en quantité suffisante des atomes de joie et de les introduire dans l'organisme par endosmose et par aspiration cutanée. C'est pourquoi je vous prescris de porter la chemise d'un homme heureux. Quoi ? S'écria le roi. Vous voulez que je porte la chemise d'un homme heureux? Oui, sur la peau, sire, afin que votre cuir aride aspire les particules du bonheur que les glandes sudoripares de l'homme heureux auront exhalées par les canaux excréteurs de son derme prospère. Car vous n'ignorez pas les fonctions de la peau. Elle aspire et expire et opère des échanges incessants avec le milieu où elle est placée. « C'est le remède que vous m'ordonnez, monsieur Rodrigue ?»« Si, on en serait ordonné de plus rationnel. Je ne trouve rien dans le codex qui le puisse remplacer. Ignorant la nature, incapable de limiter nos potards, ne fabriquent dans leurs officines qu'un petit nombre de médicaments, toujours redoutables, non pas toujours efficaces. les médicaments que nous ne savons pas faire. Il faut bien les prendre tout faits, comme les sangsues, le climat de la montagne, l'air de la mer, les eaux thermales naturelles, l'aide ânesse, la peau de chat sauvage, et les humeurs exsudées par un homme heureux. Ne savez-vous donc pas qu'une pomme de terre crue comporte dans sa poche ôte les douleurs rhumatismales? Vous ne voulez pas de remèdes naturels. Il vous faut des remèdes artificiels ou chimiques et des drogues. Il vous faut des gouttes et des poudres. Vous avez donc beaucoup à vous en louer de vos poudres, de vos gouttes. Le roi s'excusa et promit d'obéir. Le docteur Rodrigue, qui avait déjà gagné la porte, se retourna. « Faites-la légèrement chauffer, dit-il, avant de vous en servir. » Chapitre 3. Messieurs de Quatrefeuille et de Saint-Sylvain cherchent un homme heureux dans le palais du roi. Pressé de revêtir cette chemise dont il attendait sa guérison, Christophe fit appeler M. de Quatrefeuille, son premier écuyer, et M. de Saint-Sylvain, secrétaire de ses commandements, et les chargea de la lui procurer dans le moins de temps qu'il leur serait possible. Il fut convenu qu'ils garderaient un secret absolu sur l'objet de leur recherche. On avait à craindre, en effet, que, si le public venait à savoir quelle sorte de remède convenait au roi, une multitude de malheureux, et spécialement les personnes les plus infortunées, les plus accablées de misère, n'offrissent leur chemise dans l'espoir d'une récompense. On redoutait aussi que les anarchistes n'envoyassent des chemises empoisonnées. Ces deux gentilshommes pensèrent qu'ils pourraient se procurer le médicament du docteur Rodrigue sans quitter le palais et se mirent à l'œil de bœuf dont l'on voyait passer les courtisans. Ce qu'ils aperçurent avait la mine longue, le visage hâve. Ils portaient leur mal écrit sur la figure. Ils se consumaient du désir d'une charge, d'un ordre, d'un privilège, d'un bouton. Mais, descendus dans les grands appartements, Quatrefeuille et Saint-Sylvain trouvèrent M. Dubocage dormant dans un fauteuil, la bouche retroussée jusqu'aux pommettes, les narines dilatées, les joues rondes et rayonnantes comme deux soleils, la poitrine harmonieuse, le ventre rythmique et paisible, riant, transpirant la joie depuis la voûte étincelante du crâne jusqu'aux orteils, en éveillant éventail dans de légers escarpins au bout des jambes écartées. À cette vue, « Oh, ne cherchons pas davantage, » dit Quatrefeuille. « Quand il sera éveillé, nous lui demanderons sa chemise. » Aussitôt, le dormeur se frotta, les yeux s'étira, et regarda piteusement tout autour de lui. Les coins de sa bouche s'abaissaient. Ses joues tombaient, ses paupières pendaient comme du linge aux fenêtres des pauvres. De sa poitrine sortait un souffle plaintif. Toute sa personne expliquait l'ennui, le regret et la déception. Reconnaissant le secrétaire des commandements et le premier écuyer, « Ah, oh, messieurs, je viens de faire un beau rêve. J'ai rêvé que le roi érigeait en marquisat ma terre du Bocage. Hélas, ce n'est qu'un rêve, et je sais trop bien que les intentions du roi sont toutes contraires. » « Passons, dit Saint-Sylvain, il se fait tard, nous n'avons pas de temps à perdre. » Ils croisèrent dans la galerie un père du royaume, qui étonnait le monde par la force de son caractère et la profondeur de son esprit. Ses ennemis ne niaient point son désintéressement, sa franchise ni son courage. On savait qu'il écrivait ses mémoires, et chacun le flattait dans l'espoir d'y figurer honorablement aux yeux de la postérité. « Ben, il est peut-être heureux, » dit Saint-Sylvain. « Ben, demandons-le lui, » dit Quatrefeuille. Ils l'abordèrent, échangèrent avec lui quelques propos, et, mettant la conversation sur le bonheur, firent la question qui les intéressait. « Bon, les richesses, les honneurs ne me touchent pas, » répondit-il. « Et les affections même les plus légitimes et les plus naturelles, les soins de famille, les plaisirs de l'amitié, ne remplissent pas mon cœur. Je n'ai d'affection qu'au bien public, et c'est la plus malheureuse des passions, et l'amour la plus contrariée. J'ai été au pouvoir, je me suis refusé à soutenir des fonds du trésor et du sang de mes soldats, les expéditions organisées pour des flibustiers et des mercantis, pour leur propre enrichissement et la ruine publique. Je n'ai pas livré la flotte et l'armée en proie aux fournisseurs, et je suis tombé sous les calomnies de tous ces fripons qui me reprochaient aux applaudissements de la foule imbécile de trahir les intérêts sacrés et la gloire de ma patrie. Contre les bandits de haute volée, personne ne m'a soutenu. À voir de quelle sottise et de quelle lâcheté est fait le sentiment populaire, je regrette le pouvoir absolu. La faiblesse du roi me désespère. La petitesse des grands met un spectacle affreux. L'impéritie et l'improbité des ministres, l'ignorance, la bassesse et la vénalité des représentants du peuple me jettent dans des alternatives de stupeur et de rage. Pour me soulager des maux que j'endure le jour, je les écris la nuit et rends ainsi le fiel dont je me nourris. Quatrefeuille et Saint-Sylvain tirèrent leur chapeau au noble père et, faisant quelques pas dans la galerie, se trouvèrent face à face avec un tout petit homme, apparemment bossu, car on lui voyait le dos par-dessus la tête, et qui, de façon mignarde, se dandinait avantageusement. « Oh, il est inutile, » dit Quatrefeuille, « de s'adresser à celui-là. » « Qui sait ?» dit Saint-Sylvain. « Non, non, croyez-moi, je le connais, » reprit l'écuyer. « Je suis son confident. Il est content de lui et parfaitement satisfait de sa personne, et il a des raisons de l'être. Ce petit bossu est la coqueluche des femmes, dame de la cour, dame de la ville, comédienne, bourgeoise, fille galante, coquette, prude, dévote, les plus fières, les plus belles sont à ses pieds. Il perd à les contenter, sa santé et la vie est devenu mélancolique, porte la peine d'être un porte-bonheur. » Le soleil se couchait, et sur l'avis que le roi ne paraîtrait point aujourd'hui, les derniers courtisans vidaient les appartements. « Ben, je donnerais volontiers ma chemise, » dit Quatrefeuille. « J'ai, je puis dire, une heureuse nature. » Toujours content, je bois et mange bien, je dors bien, on me fait compliment de ma mine fleurie, on me trouve bon visage, aussi n'est-ce pas du visage que je me plains. Je sens la vessie, une chaleur et un poids qui me gâtent la joie de vivre. Ce matin, j'ai mis au jour une pierre grosse comme un œuf de pigeon. Je craindrais, oui, que ma chemise ne valût rien pour le roi. « Je donnerais bien la mienne, » dit Saint-Sylvain, « mais j'ai aussi ma pierre, c'est ma femme. J'ai épousé la plus laide et la plus méchante créature qui ait jamais existé, et bien qu'on sache que l'avenir est à Dieu, j'ajoute hardiment la plus méchante et la plus laide qui existera jamais, car la répétition d'un pareil original est d'une telle improbabilité qu'on peut pratiquement la dire impossible. » Il a des jeux auxquels la nature ne se livre pas deux fois. Puis, quittant ce pénible sujet, « Quatrefeuille, mon ami, nous avons manqué de sens. Ce n'est pas à la cour ni chez les puissants de ce monde qu'il faut chercher un heureux. »« Mais vous parlez comme un philosophe, » riposta Quatrefeuille. « Vous vous exprimez comme ce gueux de Jean-Jacques. Vous vous faites du tort. » Il y a autant d'hommes heureux et dignes de l'être dans les palais des rois et dans les hôtels de l'aristocratie que dans les cafés des gens de lettres et dans les cabarets fréquentés par les ouvriers manuels. Si nous n'en avons pas trouvé aujourd'hui sous ces lambris, c'est qu'il se faisait tard et que nous n'avons pas eu une chance favorable. Allons ce soir au jeu de la reine et nous y verrons meilleure fortune. « Chercher un homme heureux autour d'une table de jeu ?» s'écria Saint-Sylvain. « Autant chercher un collier de perles dans un champ de navets et une vérité dans la bouche d'un homme d'État. L'ambassadeur d'Espagne donne cette nuit une fête. Toute la ville y sera. Allons-y. Et nous mettrons facilement la main sur une bonne et convenable chemise. Il m'est arrivé, quelquefois, dit Quatrefeuille, de mettre la main à la chemise d'une femme heureuse. C'était avec plaisir. Mais notre bonheur n'était que d'un moment. Si je vous parle ainsi, ce n'est pas pour me vanter, où il n'y a vraiment pas de quoi, ni pour rappeler des félicités passées qui peuvent revenir. Car, contrairement à ce que dit le proverbe, chaque âge a le même plaisir. Mon intention est tout autre, elle est plus grave et plus vertueuse. Elle se rapporte directement à l'auguste mission dont nous sommes chargés tous deux. C'est de vous soumettre une idée qui vient de naître dans mon cerveau. Ne pensez-vous pas, Sylvain, qu'en prescrivant la chemise d'un homme heureux, le docteur Rodrigue a pris le terme d'homme dans son sens générique, considérant l'espèce humaine tout entière, abstraction faite du sexe, et entendant une chemise de femme, aussi bien qu'une chemise d'homme. Pour moi, j'incline à le croire, et si tel était aussi votre sentiment, nous pourrions étendre le champ de nos recherches et croître de plus du double nos chances favorables, car dans une société élégante et policée comme la nôtre, les femmes sont plus heureuses que les hommes. Nous faisons plus pour elles qu'elles ne font pour nous. Saint-Sylvain, la tâche étant de la sorte agrandie, nous pourrions nous la partager. Ainsi, par exemple, à partir de ce soir jusqu'à demain matin, je chercherai une femme heureuse, pendant que vous chercheriez un heureux homme. Convenez, mon ami, que c'est une délicate chose qu'une chemise de femme. J'en ai jadis palpé une qui passait dans une bague. La batiste en était plus fine qu'une toile d'araignée. Et que dites-vous, mon ami, de cette chemise qu'une dame de la cour de France, au temps de Marie-Antoinette, porta au bal chiffonnée dans sa coiffure? Nous aurions bonne grâce, il me semble, à présenter au roi, notre maître, une belle chemise de linon, avec ses entre-deux, ses volants de Valenciennes et ses glorieuses épaulettes de ruban rose, plus légères qu'un souffle, sentant l'iris et l'amour. Mais Saint-Sylvain se leva vivement contre cette manière de comprendre la formule du docteur Rodrigue. « Y pensez-vous, Quatrefeuille ? S'écria-t-il, une chemise de femme ne procurait au roi qu'un bonheur de femme, qui serait sa misère et sa honte. Je n'examinerai pas ici, Quatrefeuille, si la femme est plus capable de bonheur que l'homme. Ce n'est ni le lieu ni le temps. Allez, il est l'heure d'aller dîner. Les physiologistes attribuent à la femme une sensibilité plus exquise que la nôtre. Mais ce sont là de généralités transcendantes qui passent par-dessus les têtes et n'embrassent personne. Je ne sais pas si, comme vous semblez le croire, notre société polie est mieux faite pour le bonheur des femmes que pour celui des hommes. J'observe que dans notre monde, elles n'élèvent pas leurs enfants, ne dirigent pas leur ménage, ne savent rien, ne font rien et se tuent de fatigue. Elle se consume à briller, c'est un sort de chandelle. J'ignore si elle est enviable. Mais c'est pas la question. Peut-être qu'un jour, il n'y aura plus qu'un sexe, et peut-être qu'il y en aura trois ou même davantage. Dans ce cas, la morale sexuelle en sera plus riche, plus diverse et plus abondante. En attendant, bon, nous avons deux sexes. Il se trouve beaucoup de l'un dans l'autre, beaucoup de l'autre l'homme dans la femme et beaucoup de la femme dans l'homme. Toutefois, ils sont distincts. Ils ont chacun leur nature, leur mœurs et leurs lois, leurs plaisirs et leurs peines. Si vous féminisez son idée du bonheur, de quel œil glacé notre roi regardera-t-il désormais Madame de la Poule? Et peut-être enfin, par son hypocondrie et par sa mollesse, en viendra-t-il à compromettre l'honneur de notre glorieuse patrie? Est-ce donc ce que vous voulez, Quatrefeuille ? Jetez les yeux dans la galerie du Palais Royal, sur l'histoire d'Hercule en tapisserie des Gobelins, et voyez ce qui est arrivé à ce héros, particulièrement malheureux en chemise, il mit par caprice celle d'Omphale, et ne sut plus que filer la laine. C'est la destinée que notre imprudence prépare à notre illustre monarque. Oh, fit le premier écuyer, mettons que j'ai rien dit, et n'en parlons plus. Chapitre 4. Geronimo. L'ambassade d'Espagne étincelait dans la nuit. Du reflet de ses lumières, elle dorait les nuées. Des guirlandes de feu, bordant les allées du parc, donnaient au feuillage voisin la transparence et l'éclat de l'émeraude. Des feux de Bengale rougissaient le ciel au-dessus des grands arbres noirs. Un orchestre invisible jetait des sons voluptueux à la brise légère. La foule élégante des invités couvrait la pelouse. Les fracs s'agitaient dans l'ombre, les habits militaires brillaient, de cordons et de croix, des formes claires glissaient avec grâce sur l'herbe, traînant leur parfum derrière elles. Quatre feuilles, avisant deux illustres hommes d'État, le président du Conseil et son prédécesseur, qui causaient ensemble sous la statue de la Fortune, pensait les aborder, mais sa Sylvain l'en dissuada. Oh, ils sont tous deux infortunés, lui rétit-il. L'un ne se console pas d'avoir perdu le pouvoir, et l'autre tremble de le perdre. Et leur ambition est d'autant plus puissante dans une condition privée que dans l'exercice du pouvoir, où ils ne peuvent se maintenir que par une humble et déshonorante soumission aux caprices des chambres, aux passions aveugles du peuple et aux intérêts des gens de finance. C'est qu'ils poursuivent avec tant d'ardeur, mais c'est leur pompeux abaissement. Oh, quatre feuilles, restez avec vos piqueux, vos chevaux et vos chiens, et n'aspirez pas à gouverner les hommes. Ils s'éloignèrent. À peine avaient-ils fait quelques pas, que, attirés par des fusées de rire jaillies d'un bosquet, ils y entrèrent et trouvèrent, sous la charmille, assis sur quatre chaises, un gros homme débraillé, qui d'une voix chaude faisait des comptes à une assemblée nombreuse, suspendu à ses lèvres de satyre antique et penché sur son visage surhumain, qu'on eût dit barbouillé de l'Hali dionysiaque. C'était l'homme le plus célèbre du royaume et le seul populaire, Geronimo. Et il parlait abondamment, joyeusement, richement, lançait des propos en l'air, enfilait des histoires, les unes excellentes, les autres moins bonnes, mais qui faisaient rire. Il contait qu'un jour, à Athènes, la révolution sociale s'accomplit, que les biens furent partagés, les femmes mises en commun, mais que bientôt les laides et les vieilles se plaignirent d'être négligées, et confient alors en leur faveur une loi obligeant les hommes à passer par elles pour arriver aux jeunes et aux jolies. Et il décrivait avec une robuste gaieté des hymens comiques, des embrassements grotesques, et les courages épouvantés des jeunes hommes à l'aspect de leurs amantes chassieuses et roupilleuses, qui semblaient casser des noisettes entre leur nez et leur menton. Puis il disait des histoires grasses et salées, des histoires de juifs allemands, de curés, de paysans, toute une ribambelle de propos récréatifs et de joyeux devis. Geronimo était un prodigieux instrument oratoire. Quand il parlait, toute sa personne, des pieds à la tête, parlait, et jamais le jeu du discours n'avait été si complet dans un orateur. Tour à tour, grave, enjoué, sublime, bouffon, il avait toutes les éloquences, et ce même homme, qui, sous la charmille, débutait en comédien consommé, pour des oisifs et pour lui-même toutes sortes d'amusantes facéties, la veille, à la chambre, soulevait de sa voix puissante les clameurs et les applaudissements, faisait trembler les ministres et palpiter les tribunes, et des échos de son discours agitaient sa patrie. Adroit dans sa violence et calculé dans ses emportements, il était devenu chef de l'opposition sans se brouiller avec le pouvoir et, travaillant dans le peuple, fréquentait l'aristocratie. On le disait l'homme du temps. Il était l'homme de l'heure. Son esprit se proportionnait toujours au moment et au lieu. Il pensait à propos. Son génie vaste et commun correspondait à la communauté des citoyens. Sa médiocrité énorme effaçait toutes les petitesses et toutes les grandeurs environnantes. On ne voyait que lui. Sa santé seule aurait dû assurer son bonheur. Elle était solide et massive comme son âme. Grand buveur, grand amateur de chair rôtie et de chair fraîche, il s'entretenait en joie et prenait une part léonine des plaisirs de ce monde. En l'entendant conter ces merveilleuses histoires, Quatrefeuille et Saint-Sylvain riaient comme les autres et se tâtant du coude lordiaient du coin de l'œil la chemise sur laquelle Géronimo avait libéralement répandu les sauces et les vins d'un joyeux repas. L'ambassadeur d'un peuple orgueilleux qui marche en dette au roi Christophe son amitié intéressée passait alors, superbe et solitaire, sur la pelouse. Il s'approcha du grand homme et s'inclina légèrement devant lui. Aussitôt, Géronimo se transforma. Une sereine et douce gravité, un calme souverain se répandit sur son visage, et les sonorités éteintes de sa voix flattèrent des plus nobles caresses du langage l'oreille de l'ambassadeur. Toute son attitude exprimait l'entente des affaires extérieures, l'esprit des congrès et des conférences. Il n'était jusqu'à sa cravate en ficelle, sa chemise bouffante et son pantalon éléphantique qui ne prissent par miracle la dignité diplomatique à l'ère des ambassades. Les invités s'écartèrent et les deux illustres personnages causèrent longtemps ensemble sur un ton amical et parurent sur un pied d'intimité qui fut très observé et très commenté par les hommes politiques et les dames de la carrière. « Géronimo, disait l'un, sera ministre des Affaires étrangères quand il voudra. « Oh, lorsqu'il le sera, disait l'autre, il mettra le roi dans sa poche. » L'ambassadrice d'Autriche, l'examinant à travers son face à main, dit « ce garçon est intelligent, il se fera. » L'entretien terminé, Géronimo s'en fut faire un tour de jardin avec son fidèle Jobelin, espèce d'échassier à tête de hibou, qui ne le quittait jamais. Le secrétaire des commandements et le premier écuyer le suivirent. « C'est sa chemise qu'il nous faut, » dit tout bas Quatrefeuille. « Mais la donnera-t-il ? Il est socialiste et il combat le gouvernement du roi. »« Bon, c'est pas un méchant homme, » répliqua Saint-Sylvain, « mais il a de l'esprit. Il ne doit pas souhaiter de changement puisqu'il est de l'opposition. » Il n'a pas de responsabilité, sa situation est excellente, il doit y tenir. Un bon opposant est toujours conservateur. Oh, je me trompe fort ou ce démagogue serait bien fâché de nuire à son roi. Si l'on négocie habilement, on obtiendra la chemise. Il traitera avec la cour, comme Mirabeau, mais il faut qu'il soit assuré du secret. Tandis qu'il parlait ainsi, Géronimo se promenait, le chapeau sur l'oreille, faisait le moulinette avec sa canne, répandait son humeur hilare en plaisanterie, en badinage, en rire, en exclamation, en mauvais jeu de mots, en calembours obscènes, eschatologiques, en fredons. Cependant, à 15 pas devant lui, le duc des Zones, arbitre des élégances et prince de la jeunesse, rencontrant une dame de sa connaissance, la salua très simplement d'un petit geste sec, mais non sans grâce. Le tribun l'observa d'un regard attentif, Puis, devenu sombre et songeur, il abattit sa main pesante sur l'épaule de son échassier. « Jobelin, lui dit-il, oh, je donnerais ma popularité 10 ans de ma vie pour porter le frac et parler aux femmes comme ce freluquet. » Il avait perdu sa gaieté. Il allait maintenant, morne, la tête basse, et regardait sans plaisir son ombre que la lune ironique lui jetait dans les jambes, comme un poussin bleu. « Mais qu'a-t-il dit ? Se moque-t-il ? Demanda Quatrefeuille inquiet. « Non, 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 il n'a jamais été plus sincère ni plus sérieux, » répondit Saint-Sylvain. « Il vient de nous découvrir la plaie qu'il ronge. » Géronimo ne se console pas de manquer d'aristocratie et d'élégance. Il n'est pas heureux. Oh, je ne donnerai pas 4 sols de sa chemise. Le temps s'écoulait et la recherche s'annonçait laborieuse. Le secrétaire des commandements et le premier écuyer décidèrent de poursuivre leur enquête chacun de son côté et convinrent de se retrouver pendant le souper dans le petit salon jaune pour s'instruire réciproquement du résultat de leur enquête. Quatrefeuille interrogeait de préférence les militaires, les grands seigneurs et les gros propriétaires, et ne négligeait pas de s'enquérir auprès des femmes. Saint-Sylvain, plus pénétrant, lisait dans les yeux des financiers et sondait les reins des diplomates. Ils se rejoignirent à l'heure dite tous deux là, et la mine allongée. Ben, « je n'ai vu que des heureux, » dit Quatrefeuille, « et leur bonheur à tous était gâté. Les militaires sèchent du désir d'une croix, d'un grade ou d'une dotation. Les avantages et les honneurs obtenus par leurs rivaux leur ravagent le foie. Pas de nouvelle que le général de Tintille était nommé duc des Comores. Oh, je les ai vus jaunes comme du coco et verts comme des lézards. L'un d'eux devint pourpre, c'était d'apoplexie. Nos gentilshommes crèvent à la fois d'ennui et de tracas sur leurs terres, toujours en procès avec leurs voisins, dévorés par les honneurs de loi, ils traînent dans les soucis leur pesante oisiveté. J'ai pas mieux trouvé que vous, dit Saint-Sylvain. Mais ce qui me frappe, c'est de voir que les hommes ont pour souffrir des motifs contraires et des raisons opposées. J'ai vu le prince des Estelles, malheureux parce que sa femme le trompe. Non qu'il l'aime, mais il a de l'amour propre. Et le duc de Mauvert, malheureux de ce que sa femme ne le trompe pas, et le frustre ainsi des moyens de relever sa maison ruinée. Celui-ci est excédé par ses enfants, celui-là se désespère de n'en pas avoir. J'ai rencontré des bourgeois qui ne rêvent que d'habiter la campagne, et des campagnards qui ne pensent qu'à s'établir à la ville. J'ai reçu la confidence de 2 hommes d'honneur, l'un inconsolable d'avoir tué en duel l'homme qui lui avait pris sa maîtresse, et l'autre désespéré d'avoir manqué son rival. Mais je n'aurais jamais cru, soupira Quatrefeuille, ah, qu'il fût si difficile de rencontrer un homme heureux. Ben, peut-être aussi que nous nous y prenons mal, objecta Saint-Sylvain. Nous cherchons au hasard, sans méthode. Nous ne savons pas au juste ce que nous cherchons. Nous n'avons pas défini le bonheur, il faut le définir. Ben, ce serait du temps perdu, répondit Quatrefeuille. Ah non, je vous demande pardon, répliqua Saint-Sylvain. Quand nous l'aurons défini, c'est-à-dire limité, déterminé, fixé en son lieu et en son temps, nous aurons plus de moyens de le trouver. Je crois pas, dit Quatrefeuille. Toutefois, ils convinrent de consulter à ce sujet l'homme le plus savant du royaume, M. Chaud de Zègue, directeur de la bibliothèque du roi. Le soleil était levé quand ils rentrèrent au palais. Christophe V avait passé une mauvaise nuit et réclamait impatiemment la chemise médicinale. Ils s'excusèrent du retard et grimpèrent au troisième étage, où M. Chaudezaigue les reçut dans une vaste salle qui contenait 800 000 volumes imprimés et manuscrits.